With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Je profite de cette introduction un peu différente pour vous remercier infiniment pour votre soutien et vos retours. Cette année est passée comme une flèche. Il y aura eu, pendant cette deuxième saison, 22 entretiens d'hommes sincères, authentiques et désireux de partager avec vous leur intimité. Pour clôturer donc cette deuxième saison, riche en émotions et réflexions, je vous propose de retrouver pendant les deux mois d'été, tous les 15 jours, un invité qui vous a ému, touché, bouleversé, questionné ou même inspiré. Après vous l'avoir demandé sur les réseaux sociaux du podcast, j'ai reçu beaucoup de questions que j'ai triées et sélectionnées. Dans ces épisodes plus courts, je vous propose donc de découvrir les réponses des 3-4 questions qui sont le plus souvent revenues par invité. Je n'ai pas envoyé les questions préalablement, préférant recueillir leurs réponses spontanées. Ils vous donnent alors de leurs nouvelles après notre rencontre, l'enregistrement et la diffusion de leur épisode. Je vous souhaite une excellente écoute et un très bel été. À bientôt dans On the Verge. Pour cet épisode, c'est avec Erwan que je suis. Vous avez été très, 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 très nombreux et je mets beaucoup de traits parce que j'ai eu énormément de questions pour Erwan. Vous vouliez avoir de ses nouvelles, savoir comment il allait, etc. Donc, j'ai au maximum mutualisé les questions. Mais voilà, je pense que ces épisodes, enfin l'histoire d'Erwan qui a été en deux épisodes, vous a beaucoup marqué. J'ai fait parvenir à Erwan absolument toutes les mails et les messages qui ont été nombreux. Alors, je vais commencer par la première question qui est évidemment revenue beaucoup. Déjà, j'ai beaucoup de gens et de socionautes qui m'ont dit « Merci Erwan, est-ce que cet épisode t'a fait du bien ? As-tu eu des retours de tes proches et comment vas-tu ?» Donc, c'est la première question qui est en plusieurs tiroirs, Erwan.
Est-ce que ça m'a fait... Alors, des proches. Oui, j'ai eu quelques proches qui l'ont écouté. Des proches qui n'ont pas voulu l'écouter, qui n'arrivent toujours pas à l'écouter. J'ai une amie qui a très peur de l'écouter, puisque en fait, je me suis rendu compte... que c'est la première fois que je mettais des mots aussi forts sur ce qui m'était arrivé et j'étais persuadé que je le faisais avant, mais apparemment non. Apparemment les mots sortaient pas, quoi. Je l'avais fait un peu pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Mais sinon pas tant que ça, pas tant de personnes ont écouté. Je l'ai pas non plus distribué, hein. C'est pas quelque chose que j'ai voulu distribuer à mes proches non plus. Après, comment, qu'est-ce que ça m'a fait à moi ?
Alors, ça fait du bien, ouais.
Ah du bien, oui. En fait, ce qui a été très intéressant quand je me suis écouté, en fait, c'est un espèce de cadeau incroyable parce que je pense que personne, pratiquement dans ce genre de cas, n'a l'occasion de pouvoir s'écouter, raconter. Ce que tu avais appelé l'innommable, ce qui m'avait beaucoup touché d'ailleurs, parce que je le voyais pas comme ça. Ça a été très fort hein, quand je me suis, j'ai bien écouté tes conseils de m'allonger sur mon canapé tranquillement et j'ai bien fait. J'ai pu enfin comprendre ce que ça faisait d'écouter en fait cette histoire que je déblatérais d'une façon assez facilement avant, et j'ai pu comprendre pourquoi certaines personnes avaient du mal à suivre derrière une fois que je la racontais en fait, pourquoi il n'y avait pas forcément du répondant, ou en tout cas un répondant on va dire un peu lourd ou etc. Donc ouais c'est vraiment un passage très important dans ma vie en fait d'avoir écouté ça. Ça m'a posé dans la réalité de ce que ça m'a fait, mais pas que ce que ça m'a fait, c'est avec l'empathie sur quelqu'un d'autre. C'est assez ouf en fait de s'écouter puisque j'étais empathique de moi-même. C'est très égocentrique tout ça là, mais bon forcément. Hein. C'est-à-dire que voilà, je me suis dit mais pauvre loulou quoi. Tu vois, quand j'entendais ça, j'étais là mais putain pauvre gamin quoi.
Il y a eu beaucoup de retours comme ça hein, qu'on a eu beaucoup que je t'ai envoyé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une grande empathie et qui ont été très touchés par ton histoire. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu du mal à l'écouter, qui l'ont écouté en plusieurs fois, qui ont été à la fois choquée, dégoûtée. Enfin, ça a été, il y a eu beaucoup beaucoup de réactions, et à travers les deux épisodes, parce que c'était difficile de le faire tenir en un seul, il y a c'est vraiment les montagnes russes des émotions, parce que tu fais rire comme tu fais pleurer. On est à la fois choqué et hyper empathique avec toi. On a envie de prendre ce gamin et de le sortir de tout ça, et en même temps l'homme que t'es devenu est sexy et donne envie aussi de vivre, de rigoler, de boire des coups. Enfin, il y a tellement de il y a un panel de tellement d'émotions, et c'est une des auditrices avec laquelle j'échange souvent qui m'a dit que c'était vraiment c'est un film en fait. Elle a fait un pas de côté et elle s'est dit ce mec-là, c'est un personnage de film, parce que il a un million de choses à raconter, et en même temps ça se termine comme une happy end à l'américaine. Et en plus, pour la blague, en ce moment, moi je trouve, et tu m'as confirmé que tu ressembles à Colin Farrell en ce moment, tout le monde te dit ça. Donc ce serait lui qui ferait ton rôle du coup si c'était transposé au cinéma. Mais ouais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours qui étaient dans ce sens-là, de comme tu le dis très bien, pauvre loulou, pauvre gosse, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'enlever de tout ça. Donc je peux comprendre qu'il y a eu cette réflexion que tu as pu avoir en t'écoutant. Ouais. Et pour terminer cette première grosse question, c'est comment vas-tu là aujourd'hui ? Là, on enregistre, on est fin juin, tout début juillet. Comment ça va ?
Eh ben, ça va. C'est quand même les montagnes russes, mais pour plein d'autres sujets, qui sont pas que rapport à tout ça. Le confinement a fait que je me suis remis en question sur énormément de choses, donc c'est les grosses montagnes russes. Mais comme je te disais juste avant qu'on enregistre, vraiment là, je suis rentré dans une période. Comme on enregistrait il y a un moment, et juste après notre enregistrement, j'ai décidé de me mettre à aller dans toutes les littératures possibles, en fait, pour pouvoir réfléchir à tout ce qui m'arrivait sexuellement parlant, etc. Les soucis, entre parenthèses, que j'étais en train de vivre, ce désert de Gobi, comme j'ai une image, encore une fois, réductrice, puisque... en un an, j'avais quand même rencontré 3 à 4 femmes, quoi. C'est vraiment pas du tout un désert de Gobi, mais c'est comme ça que je le vivais intérieurement, en tout cas, puisque je considérais textuellement, j'étais vraiment en train de descendre dans les bas-fonds, de vraiment quelque chose qui m'enlevait de tout plaisir. Et du coup, j'ai lu Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, que je conseille fortement à tout le monde, au lycée, au collège. On devrait lire à 14 ans pour rentrer dans la vie. j'ai lu derrière Au-delà de la pénétration de Martin Page, qui est un super bouquin aussi. Après, je suis tombé sur Jouissance Club de June Pla, qui m'a fait énormément de bien. J'ai enchaîné d'autres petits bouquins aussi comme ça autour de ça. J'ai échangé avec des amis autour, avec des femmes que je connais. Et en fait, ça m'a libéré, surtout qu'en fait, après, toi qui es une femme, Olivia Gazalet qui est une femme, June Pla qui est une femme, voilà, d'entendre toutes ces voix de femmes qui s'intéressent à la sexualité, soit masculine, soit au patriarcat, soit ce qui fait en fait que la pénétration et en tout cas la sexualité phallocentrée et pornocentrée existe et est vraiment présente dans notre société, la remettre en question et tout ça, ça m'a vraiment fait du bien, puisque c'était des voix de femmes que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir me rassurer. Et du coup, tout ça a fait qu'il a commencé à avoir une détente, qui se crée quelque chose. Et puis en fait, je me suis rappelé que, je sais pas si on en a parlé au l'enregistrement qu'on a eu avant, mais je me suis rappelé la première fois en fait que je me suis intéressé au sexe. Mais si, on avait parlé, c'était un espèce de petit tantra allemand là que j'avais acheté, incroyable, que je trouvais génial. Mais la base de ma sexualité, je l'avais construite sur toute une sexualité autour du soft sex, quoi, de tout ce qui était ce qu'on met entre parenthèses des préliminaires. J'aime pas du tout ce mot, mais le sexe hors pénétration. Et je me suis re-révélé à ça en fait. La vie a fait que pendant toutes ces années, je m'étais petit à petit engouffré avec les femmes que j'ai rencontrées, etc., qui elles aussi sont autant manipulé que moi par tout ça, m'étais réengouffré vers quelque chose de vraiment pas centré sur ce que j'aimais, et je me redécouvre là. Et puis, à force aussi d'évolution dernièrement, d'avancée thérapeutique, il y a vraiment il y a eu un décrochage avec une jeune femme que j'ai rencontrée et qui est venue me voir juste après le confinement, qu'on avait discuté pendant tout le confinement. Et voilà, à qui j'ai assumé ma sexualité avec ses problèmes et sans ses problèmes. Et ça fait qu'en fait, c'est voilà. Comme je disais juste avant, j'ai vécu pour la première fois une sexualité sans peur. Et ça fait que je peux raconter par rapport au sujet qui est celui d'ici. Ça va bien. Parce que là, je pars même dans quelque chose de contraire. Je redeviens très actif et sans peur. Donc en fait, ça crée plein d'émotions très adolescentes. avec voilà le cœur qui bat à 100 à l'heure à chaque fois que je me mets en relation avec une femme, que ça soit de façon digitale, une sexualité digitale ou une sexualité dans la réalité. Et ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression de revivre. C'est même un peu fort à des moments. Je pense que je suis très sensible, donc à des moments ça tape fort. Mais j'arrive un peu à décrocher la sexualité des émotions, quoi, des sentiments, pas des émotions. Et les choses à leur place, donc ça va bien. Ça va très bien même là-dessus.
Bah c'est cool. C'est hyper cool. On s'était un peu parlé pendant le confinement et puis on prend des news, mais c'est cool de savoir que ouais, ça va et que comme tu disais, le mojo revient et que enfin c'est top.
C'est hallucinant de quand on se libère intérieurement, comment l'extérieur arrive à soi, mais comme les portes s'ouvrent quoi. C'est impressionnant. J'avais jamais vécu ça.
C'est cool. J'espère que ça va durer encore longtemps. J'avais une autre question pour toi. Alors là, les gens ont vraiment été très à l'écoute hein, des épisodes. Il y a une jeune fille qui me dit « J'aurais aimé en savoir plus sur la conversation avec Maëva à Barcelone quand Erwan dit qu'elle a su bien lui parler par rapport à d'autres qui ne savent pas parler aux hommes. C'est arrêté net quand je pensais justement qu'il allait donner des détails qui peuvent servir. »
Coucou Maëva, parce que c'est une des seules qui écoute ce podcast, je crois. Donc voilà, je pense qu'elle va écouter ça aussi.
Coucou Maëva. Père.
Elle sera contente d'entendre ses compliments et de savoir que... Écoute, ce qui s'est passé, c'est que bah, déjà, c'est quelqu'un de... C'est une femme très chaleureuse, hein, déjà de base, hein, méditerranéenne, voilà. Vraiment, il y a ce côté mère juive, tout en étant... quoi, qui est mère juive, j'entends, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment une chaleur incroyable. Donc déjà, ça aide énormément, forcément, puisqu'on se sent tout de suite englobé par quelque chose de rassurant. Après, par-dessus ça... En fait, ce dont on a parlé, c'était comme moi, à ce moment-là, mon corps me lâchait. On a commencé à parler de sexualité et de tout ce qui peut être autour des peurs que je pouvais avoir, autour de la jouissance rapide, autour de pas bander, autour de tout ça. Et en fait, elle m'a juste dit un truc, mais qui était génial. Elle fait « Mais moi, j'adore quand un homme jouit. Et d'ailleurs, au contraire, quand je vois que c'est qui va peut-être venir, je le chope. Elle me dit, je mets mes mains sur ses fesses, je chope ses fesses, je le colle à moi et je lui dis, tu penses. Enfin, en gros, elle me dit, tu penses à rien d'autre et t'y vas, quoi. Voilà.
D'accord.
Et ça fait juste du bien. Parce qu'en fait, c'est justement ça qui fait qu'il y a un manque de lâcher prise. C'est qu'à ce moment-là, on passe. Moi, en tout cas, moi, je ne pense pas à rien d'autre. Je suis en train de me dire, putain, merde, je suis en train de jouir. Est-ce que l'autre, c'est le bon moment pour elle? Donc, c'est presque aussi simple que ça.
Elle t'a encouragé à être dans ton plaisir. Et à ce moment-là, quand ça arrive, complètement. Te laisser à 100% dans ce moment-là, à toi, rien qu'avec toi, c'est ça?
Bah du coup, moi, non, puisque du coup, nous, il se passe rien entre nous, vu que mon corps disait non, non, non.
Oui, enfin, pas toi, mais le... Oui.
Ouais, elle me parlait de comment elle était avec les hommes, puisque là, on pouvait surtout que parler. Et du coup, c'est de ça, c'est ça qu'elle m'a dit. Et ça m'a fait du bien aussi d'entendre une femme dire ça, même pour le reste, pas que pour elle, pas que pour une relation avec elle, pour d'autres.
Ok, très clair. Une question, après, si tu veux... Pas que je la diffuse, hein, je la diffuserai pas, Erwan. Alors, c'est Erwan, as-tu vu clair finalement? Comment cela s'est-il passé?
Mais oui, j'ai vu clair, il s'est rien passé du tout. Ce qui s'est passé en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte que je sexualisais énormément mes ex, en général, pas que Claire en fait. C'est-à-dire que si je devais, je me suis posé la question après, si je devais en fait repenser à toutes mes ex, je crois que je pourrais recoucher avec toutes mes ex, quoi. Sans exception. Et du coup, il y a cette tension qui se crée par rapport à ça et ces désirs qui se créent par rapport à ça dès que je revois une ex, pratiquement n'importe laquelle. Ça rejoint un peu ce que je crois avoir dit une fois, mais c'est qu'en fait, je me rends pas compte que voilà, c'est des femmes qui m'ont aimé et que à ce moment-là, ça m'a ressauté aux yeux. C'est quelqu'un qui veut me voir parce que elle a ses raisons, mais en tout cas. Pas lié à ça, en tout cas. Et moi, je pensais que ça était vachement lié à ça. Bon, après, c'est une femme qui est très portée sur la sexualité, de manière tout à fait sans aucun souci. Hein. Mais voilà, donc du coup, je me dis, bah du coup, ça va être possible. Mais en fait, je pense que il se joue encore un jeu. Claire représente énormément ce que pourrait représenter ma mère. Donc, il se joue un jeu dangereux et un jeu malsain, en tout cas avec elle. Pas avec d'autres ex, hein, mais en tout cas avec elle.
Okay.
Que voilà, il s'est rien passé de plus. Moi, ça me... Je sais pas, elle joue au chat à la souris, des fois je veux bien lui reparler, mais elle est plus là. Enfin bon, ça, bon, d'un moment ça me saoule, donc voilà, il s'est rien passé de spécial.
Ok. Après, il y a pas mal de questions sur ta psychanalyse, donc je vais essayer de faire une grosse question avec plusieurs degrés. Donc, dans quelle approche se situe ta psychologue, dont tu parles et dont tu es assez proche? Est-ce que c'est de la psychanalyse, de l'approche cognitive et comportementale, humaniste, existentielle, systémique, intégrative? Donc, je crois que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, c'est comment l'a-t-il trouvé? Donc il y avait eu cette question, il y avait une jeune femme qui avait eu besoin de cette info, donc je sais pas si tu en rappelles, tu m'avais donné les références que je lui avais transmises. Qu'est-ce qui a fait que ça a si bien fonctionné avec elle et pas avec les autres? Est-ce que ce travail sur toi est éprouvant? Cette éprouvée est-il plus bénéfique que ses douleurs d'avant? Comment vit-il ce travail finalement?
Fais gaffe, tu vas faire encore deux épisodes avec des questions comme ça.
J'ai déjà prévu que le tien soit un peu plus long que les autres, mais.
Alors, je vais essayer de faire court. Psychologie intégrative que je fais. Donc, forcément, ça vient intégrer toutes les autres écoles qui ont été citées avant, quelque part. Puisque c'est le but de la psychologie intégrative, c'est d'intégrer le maximum de techniques possibles. Parce que voilà, ils ont vu au fur et à mesure, moi je me suis renseigné un peu, ils ont vu au fur et à mesure que certaines avaient leurs limites, donc le but était vraiment d'intégrer le maximum pour qu'en fait ça soit le thérapeute qui s'adapte au patient et pas le patient qui s'adapte au thérapeute, ce qui est souvent le cas. Si on fait du lacanien, je peux dire j'ai essayé le lacanien, si on donne, pour répondre un peu à la question aussi, est-ce que j'ai essayé d'autres choses? Oui, j'ai essayé le lacanien. Le côté toujours en retard, tu sais pas si ça va durer 10 minutes, 45 minutes, j'ai un pote qui continue à le faire, moi très peu pour moi, ça m'a rendu ouf, je suis parti tout de suite. Et après moi c'est la deuxième psy que j'ai trouvé en fait, donc c'est arrivé assez vite. Moi je l'ai trouvé dans toutes les bonnes choses que m'a apporté Claire de par sa thérapie, c'est la thérapeute de Claire qui m'avait indiqué le regroupement de thérapeutes dans laquelle ma thérapeute est. Je donnerai pas, j'avais réfléchi à ça, je me dis que la question est tombée, je donnerai pas le groupement de thérapeutes ici parce que je pense qu'ils sont pas beaucoup et c'est pas un endroit où donner ce genre d'informations. Je crois qu'ils sortent tous d'une école qui s'appelle la NFL ou un truc comme ça, qui est fermée aujourd'hui, mais ça je crois que c'est l'école de laquelle ils sortent. Nouvelle faculté libre, je crois, à Paris. Bon voilà, c'est. Alors après, dans les autres questions, parce qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que ça marche?
Est-ce que ça a bien fonctionné pourquoi ça a bien fonctionné avec elle et pas avec les autres? Est-ce que ce travail sur soi est éprouvant? Est-ce que cette éprouvée est-il plus bénéfique que tes douleurs d'avant? Comment tu vis ce travail finalement?
Ok. Alors, il y a deux travaux que je mets en place en parallèle qui sont avec la même thérapeute. C'est ma thérapie individuelle une fois par semaine, que je tiens quand même depuis maintenant 6 ans. Et 6 ans et demi, on va dire, et un groupe de thérapie une fois par mois qui dure une journée et demie, dans l'approche intégrative aussi, avec ma psy et un autre psy, que je fais depuis 6 ans, pratiquement 6 mois après, j'ai commencé direct. Est-ce que c'est éprouvant? Oui, puisqu'en fait, c'est à base de 14 heures de thérapie par mois, en moyenne. Si ce n'est plus des fois quand je fais plusieurs séances par semaine, quand il y a vraiment des gros breakdowns. Est-ce que c'est éprouvant? Ça l'est totalement. C'est-à-dire que je comprends totalement que les gens n'arrivent pas à y aller. C'est-à-dire qu'en vivant ça, avec ce que j'ai vécu, bien entendu, j'ai plein d'amis qui ont fait des thérapies de 2 ans, ils vont très bien après. Ça dépend ce qu'on a vécu avant, ce qu'on a à régler, bien entendu. Par rapport à moi, mon enfance et les résidus l'inertie de ce qui s'est passé pour moi, de ces événements-là. J'ai vécu des moments, mais même là encore dernièrement, quoi. Voilà, c'est après avoir écouté le premier épisode de mon épisode, on va dire, après pendant le confinement, même si le confinement s'est bien passé, à la fin du confinement, il y a d'autres choses qui sont remontées, il y a énormément de sujets, et il y a un moment, on attaque tellement de sujets à la fois, qui sont finalement toujours tenus à la fois par une racine, et souvent en plus la racine n'est même plus après ce que m'a fait ma mère, etc. En rendant des choses qui sont encore plus profonde presque, en fait. C'est-à-dire que là, après, on n'a plus la main. C'est-à-dire que c'est plus parce qu'on va travailler un truc qu'on est allé ouvrir une porte et puis que ça fait un peu mal et puis bon, on attend que ça passe et c'est bon. Ça continue non-stop, en fait. C'est-à-dire que c'est trop tard. On a ouvert des portes, c'est fini maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus revenir en arrière. Donc, c'est éprouvant. Moi, j'ai fait quelques tests cognitifs dernièrement. Sur 21 d'anxiété, je suis à 15. C'est énorme. Alors en dépression, 2. Peut-être pour ça que j'arrive à faire autant rire les gens en parlant d'atrocité. Mais par contre, en anxiété, je suis à 15. Donc en gros, je suis bon level. Mais bon, c'est pas une surprise. Je pense qu'avant de faire le 5 ans avant de faire le test, je vais être à 20 sur 21. Tu vois, donc voilà. Et maintenant que les choses se calment. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'en fait, je vois plus. Plus on voit, plus on est calme, plus on voit. Donc, plus on voit, plus ça tape fort aussi. Donc, en fait, c'est comme si ça s'arrêtait jamais, quelque part. Puisqu'en fait, les potards baissent la souffrance baisse, mais comme les potards baissent avec, on a l'impression que ça tape toujours au maximum, quoi. Mais je ne changerai en rien, c'est-à-dire que les problèmes que j'ai aujourd'hui sont vus avec clarté, sont vus avant que, si on doit prendre l'image d'une vague, la vague était déjà en train de déferler sur moi et me noyer, que je me rendais compte que les émotions montaient. Maintenant, je commence à les sentir en haut de la vague, donc je suis presque prêt à surfer. Et petit à petit, bah, je remonte en amont. Et pour certaines émotions, des fois, je les sens arriver presque avant que la vague parte, et je peux rester beaucoup plus tranquille. Donc j'ai la liberté de voir. J'ai pas la liberté de plus souffrir, mais j'ai la liberté de voir.
Wow. Tout à fait. C'est fort ce que tu dis. Enfin, on en avait déjà parlé, mais c'est très très sage, effectivement, cette liberté de voir, mais de pas maîtriser sa souffrance. C'est une bonne transition avec une autre partie de la question, surtout ta psy. Que penses-tu du concept de résilience développé en psychologie par Boris Cyrulnik? Trouve-t-il que cela peut s'appliquer à ce qu'il fait de son histoire? Est-ce que c'est quelque chose que tu conjugues, la résilience?
Alors la résilience, putain. Pour être sûr, pour me rappeler exactement ce que c'est, parce que résilience, j'en ai une définition dans ma tête, mais elle est très vague, c'est un concept qu'on entend tout le temps. Résilience, pour moi, comment je pourrais l'expliquer? Si je devais l'expliquer, tu vas me dire c'est ça, toi, mais... Bah, c'est de réussir à vivre avec ce qui nous est arrivé et de continuer, quoi, d'avancer et de pas être submergé, justement, comme on vient d'en parler.
C'est ça. Globalement, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu qui est traumatisé, hein, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne plus ou pas vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. C'est la définition de la résilience.
Ouais. Alors si c'est la définition de la résilience, quelque part la résilience dans ce cas-là, c'est une conséquence, c'est pas une cause. C'est-à-dire qu'elle va être la conséquence d'un travail, elle va pas être la cause de quelque chose. Donc finalement, j'ai pas la main dessus, je vais pas rechercher la résilience donc je peux pas trop en parler. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse là-dessus. C'est-à-dire la résilience est un fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont résilients, qui arrivent à être résilients, peut-être qu'ils sont de nature, je pourrais pas répondre à ça. Moi apparemment je le suis de nature, si ça doit être naturel, puisque de partir de l'âge de 13 ans j'ai cherché à être résilient. À partir de l'âge de 13 ans j'ai commencé à...
Je pense que ce que tu décris comme naturel, c'est ce qu'on pourrait appeler la singularité de l'être. Il y a des gens qui ont ça et d'autres qui ne l'ont pas. Pour rattacher à Boris Cyrulnik, lui, ce qu'il dit, c'est que le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis, la résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité.
Oui, bah.
Donc c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Ouais, donc c'est un peu ce qu'on dit. Alors, si on parle de est-ce que le malheur et le bonheur, à quel point l'un est pur, l'autre machin, je t'avouerais que après là, on va rentrer dans des considérations philosophiques où on va sortir du cadre, parce que moi, avec la philosophie que je suis et les études philosophiques que je suis en ce moment, dont on avait déjà discuté bouddhiste, ça ressemble un peu quelque part, c'est-à-dire que on a tout le temps peur de perdre le bonheur, donc c'est une souffrance, et puis le malheur est une souffrance parce que c'est la souffrance de la souffrance, donc quelque part. Il y a ni à fuir, ni à suivre, ni à rejeter. Donc, moi j'ai l'impression de vivre cette résilience de manière, c'est peut-être cette chance où je suis à 2 sur 21 en dépression. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que, je vois toujours le bon côté des choses. Il y a chez moi cette force de vie qui fait que je me suis pas foutu en l'air, il y a un truc, je sais pas, soit de ce qu'on m'a donné. Après, tu sais, ma mère, elle a fait des saloperies, mais elle m'a aussi mis dans la tête que j'y réussirais toujours dans ma vie, quoi qu'il arrive, vu qu'elle voulait absolument que je sois un petit génie, machin et tout. Malgré ça, on pourrait dire un génie que c'est une merde toute sa vie, on verra jamais que c'est un génie, et apparemment on peut dire à quelqu'un qui est pas un génie que si c'est un génie, puis il peut après se sentir super à l'aise dans sa peau, et peut-être qu'elle m'a donné une petite médecine, quoi, tu vois, avec elle a réussi à me mettre ça dans la tête, et donc j'ai toujours su que je m'en sortirais quelque part. Mais je peux pas, là je le dis comme ça, c'est juste que c'est pas très conscient dans la vie de tous les jours, c'est juste qu'en fait j'agis toujours pour toujours avoir la tête hors de l'eau, en fait, voilà, pour pas me noyer. Donc quelque part la résilience, en fait ça va vraiment exactement à ce que je disais avant, c'est-à-dire que j'ai la liberté de voir. Je pense que c'est ça la résilience, c'est juste regarder, en fait, et pas trop juger.
Ouais, complètement. Il y avait une autre question qui était, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras dire que tu es heureux?
Alors non, mais parce que c'est pas ce que je recherche. Heureux.
D'accord.
Heureux, qu'est-ce que c'est? Alors là, pareil, 25 émissions, quoi. Heureux, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est, si je peux pas répondre comme ça, c'est impossible. J'ai pas un cerveau qui peut dire oui, bien sûr, un jour je vais être heureux. Non, parce que ce serait, j'ai l'impression, me fourvoyer. Je pense que c'est un mirage, être heureux. C'est un concept. Il y a la joie. C'est des moments. Il y a des moments de bonheur. Il y a des moments de joie. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments de souffrance. Et le but, c'est de regarder ça passer, quoi. Et je pense qu'il y a la liberté possible. Voilà, liberté, à chaque fois, ce mot-là, il est tellement grandiloquent, mais je veux dire, voilà, cette, pas la liberté, mais cette détente à regarder tout ça passer. Je l'ai pas, hein, la détente, hein. Attention, hein, ce serait le but, parce que là, on parle de est-ce que je voudrais quelque chose. Donc, ce que je voudrais, c'est pas être heureux, c'est pouvoir me détendre, mais au maximum avec tout ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire, s'il devait avoir une définition du bonheur, ce serait ça, je pense.
Ok. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que tu as une anecdote à raconter au sujet de l'enregistrement? Et est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, un nouveau mot de la fin?
Une anecdote? Non, il n'y en a pas vraiment. Je réfléchis, mais...
Moi, j'ai une anecdote, c'est que ton livre de cuisine est extraordinaire et que celui que tu m'as offert qui est super... Et que du coup, il est dans ma cuisine, il trône en belle place et je l'utilise régulièrement et c'est trop cool. C'était un super cadeau.
Braise-moi avec le mi-cuir au chocolat.
Braise-moi. Ouais, avec le mi-cuir au chocolat et la tarte au poil et il y en a des tonnes et des tonnes.
C'est à mourir de rire comme ça.
Non, c'est trop cool. Ah, il est génial. Et puis les recettes sont canons.
Ouais. Ah non, mais c'est le.
C'est vraiment bien.
C'est pas juste un objet LGBTQ++, machin. Ouais. C'est vraiment un livre de cuisine. Tout l'humour qui peut tourner autour du drama, quoi, de tout ce qui est LGBTQ, quoi. Ouais, effectivement.
Ouais. Ouais, parce que ça, on en a pas parlé, mais tu cuisines et t'adores ça et c'est une vraie passion. Et du coup, quand t'es venu à l'enregistrement, tu es venu avec des pâtisseries japonaises qui étaient trop bonnes, que j'ai gobées, genre le lendemain. Et ce livre, Braise-moi, et ouais, c'était trop bien. Et du coup. Et un nouveau mot de la fin? Tu changerais, tu aurais quelque chose à rajouter parce que on enregistre que il y a combien de temps maintenant?
Bah il y a bientôt 5 mois.
J'ai une mémoire de poule, c'est ça. On a enregistré début février, ouais.
Finalement, le côté trouvez-vous une putain de psy me fait beaucoup rire, mais c'était à moi que je parlais à ce moment-là parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de ce chemin-là et je le souhaite à personne d'ailleurs. Si tout le reste du monde n'avait pas à faire ce chemin-là et que moi, je le prendrais sur moi sans problème. Mais du coup, non, pas vraiment. Bah, on a parlé de résilience là, donc pour moi, par rapport à ce qui se passe. Pour ceux, en tout cas, qui se trouvent dans des difficultés, qu'ils soient hommes ou femmes, là, vraiment, j'ai pas du tout envie de faire de différence, quelle qu'elle soit. On est tous dans le même bateau, hein, quelque part, là, aujourd'hui. On est dans une génération où je sens qu'on est tous dans le même bateau. J'ai vraiment apprivoisé ma vulnérabilité de façon forte ces derniers temps. Et les gens ne m'ont jamais autant aimé. J'ai jamais autant de retours... de gentillesse, d'amour que depuis que j'arrive à avoir plus peur en fait, c'est juste ça, hein. c'est pareil, c'est une conséquence, hein, d'être vulnérable, c'est pas une cause, j'ai pas décidé depuis d'être vulnérable et donc le mot de la fin ce serait ça, ce serait que c'est possible quoi, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, moi j'arrive d'assez loin quand même, il y en a d'autres qui arrivent de plus loin quand même, mais voilà, c'est possible d'avoir une vie sexuelle épanouie. Je l'ai eu avant, hein. En vrai, on a quand même parlé de trucs vachement glauques, mais si on prend étape par étape aujourd'hui.
Non, on a parlé de trucs super sympas aussi. Et des trucs chouettes et, ouais.
Même si je le vivais à l'époque dans une recherche sans fin, panier percé, etc., du coup, qui me satisfaisait pas. Maintenant, les souvenirs sont de plus en plus joyeux. Ce qui est incroyable, c'est qu'une fois qu'on change un mode de pensée, finalement, même les mauvais souvenirs en deviennent bons. Parce qu'en fait, on les voit comme une construction qui a amené à ce moment-là plus paisible. Donc voilà, j'ai envie de dire que, quel que soit à tous ceux qui sont déjà à l'aise dans leur sexualité, mais kiffez, et à ceux qui ne le sont pas, bossez, quoi. Mais n'ayez pas peur. Les résultats, ils sont à la plus haut que ce qu'on peut espérer. Vraiment. Moi, j'espérais pas pouvoir ressentir mon corps comme aujourd'hui, ressentir... ma sexualité comme aujourd'hui, et c'est que le début, parce que là, c'est vraiment que le début. Je redescends l'adolescence, comme j'ai dit, là, je repars à 16 piges, et j'en suis reparti pour 15 ans jusqu'à maintenant, quoi, tu vois. Donc,
c'est canon. Super. Est-ce que tu as un message à passer aux auditeurs, aux auditrices? Parce que c'est vrai que ça, tu fais partie des épisodes. Alors, ils sont tous singuliers à leur façon, mais le tien a été particulièrement écouté, apprécié et commenté. Est-ce que tu aurais un message à leur adresser?
Bah, merci déjà à tous les messages que j'ai reçus. Ça a aussi beaucoup fait partie du processus de résilience, puisqu'on va utiliser ce mot. Maintenant que je l'ai dans la tête, je le place. Vraiment, ça m'a... Pareil, voilà, je me suis mis vulnérable et j'ai ressenti aussi quelque part beaucoup de bienveillance. Quoi, pas quelque part, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance. Donc déjà, merci à tous ceux qui m'ont écrit, et même à ceux qui m'ont juste écouté, en fait, parce que c'est fort, en fait, d'écouter ça. En m'écoutant, j'ai compris ce que vous avez vécu. Voilà, j'ai juste à dire juste un grand merci, en fait. C'est vraiment quelque chose, ça a été, c'est une étape charnière dans ma vie, hein, c'est ce que tu m'as offert, vraiment, sache-le.
Bah, je suis touchée.
Qu'ils puissent se sentir aussi en lien avec ça, parce qu'ils en font partie, parce que sinon ça n'existerait pas, donc c'est vraiment top.
Bah, je ne peux que clôturer ce que tu dis en parlant d'écoute active. C'est vrai que ce micro, je parle dedans, je le tends aux hommes qui sont comme toi, ok pour ouvrir leur cœur, leur intimité, et tout ça, ça existe parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont, comme tu dis, dans cet acte d'écoute, et que c'est un lien très fort au final. C'est effectivement entre écouter, tu vois, de la musique, le silence, une histoire drôle, ils décident d'écouter le parcours d'une vie, et le fait de l'écouter, et puis parfois effectivement de réagir et d'envoyer un message, une bonne onde, bah finalement ça apporte, et c'est vrai qu'on crée comme ça ensemble au fur et à mesure quelque chose de très fort, donc ouais, c'est chouette de les remercier, et c'est top. Du coup, Erwan, je te souhaite le meilleur. Bon, après on reste en contact, toi et moi, puisque on se parle de temps en temps, et ça, c'est cool. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'essaie vraiment de synthétiser, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gros bisous à Erwan, bravo Erwan, merci Erwan, je t'aime Erwan. Donc tout ça, le côté un peu fan club, je l'ai gardé d'un côté. Et puis voilà, essayer d'un peu de... Les gens voulaient surtout savoir comment tu allais et savoir comment ça se passait pour toi. Mais c'est cool. Et puis on prendra le temps de façon d'en discuter encore toi et moi longuement, je pense.
Ça marche, avec grand plaisir.
Bon, merci Erwan.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute et merci à mon invité de s'être prêté au jeu des questions. C'est toujours très cool de revenir sur ces moments qu'on a partagés et puis surtout d'avoir vos réactions et les réponses à vos questions. Je trouve que c'est un bel échange et que ça crée quelque chose d'assez unique. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de laisser un avis positif idéalement pour que le podcast gagne en visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.